Bien, donc nous allons entamer la deuxième partie de cette soirée. Alors je ne sais pas si Claire Berthaud est par là. Et puis nous allons remercier et appeler nos invités. Donc Monsieur Benoît Giraud, voilà, président tribunal. Je vous laisse peut-être un micro si vous souhaitez vous présenter.
Bonsoir à tous, Benoît Giraud, je suis le président du tribunal judiciaire d'Angers et également président du centre du conseil départemental de l'accès au droit qui a organisé cette semaine ce festival et donc cette rediffusion publique de ce beau film. Voilà, avec Claire Berthaud qui est la coordinatrice du CDAD avec laquelle je travaille toutes les semaines. Voilà.
En tout cas, nous sommes honorés de votre présence.
Merci un grand beaucoup. Merci. C'est surtout vraiment un grand merci à vous d'avoir bien voulu organiser, et au cinéma, les 400 coups, d'avoir bien voulu organiser avec nous ce festival, voilà, et d'accord, cette diffusion.
Merci beaucoup. On va appeler également... Ah, voilà, vous êtes arrivé, je ne vous ai pas vu. Maître Rera, voilà. Peut-être je vous donne... si vous voulez dire quelques mots, vous présenter...
Donc je suis Sylvie Rera, avocat au barreau d'Angers. Je suis donc également médiatrice et je m'intéresse aussi à la justice restaurative. Voilà.
Et Madame Roger, voilà, avec une autre casquette.
Bonsoir, je suis directrice au SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, acronyme que vous avez entendu tout à l'heure. Et j'ai été aussi CPIP, donc conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Merci beaucoup. Donc ce film qu'on vient de voir apporte un certain nombre d'éléments de réponses, mais pose aussi des questions. Donc l'idée, c'est que vous ayez, le plus possible la parole. Donc qui souhaite poser une première question à nos invités.
Bonsoir. La justice restaurative, est-ce que c'est dans le cadre d'une expérimentation ? Parce qu'à un moment, on a l'impression que c'est quelque chose qui est mis en question. Donc voilà, je voulais savoir si aujourd'hui, c'était toujours quelque chose qui existait. Est-ce que c'était une pratique courante ou... voilà, dans quelle mesure c'était pratiqué aujourd'hui en France ?
Alors, c'est une loi de 2014 qui a intégré ce dispositif, suite à une circulaire qui est intervenue ensuite en 2017. Donc, ça a été une mise en œuvre de ce dispositif. Effectivement, il y a toute une série de programmes qui sont actuellement en cours d'exécution. Je crois, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 300 programmes qui correspondent à un certain nombre de mesures restauratives qui sont différentes. Vous avez pu le voir là, vous avez en fait deux mesures restauratives qui sont différentes. L'une, c'est une médiation restaurative entre l'auteur et la victime de l'infraction. Et l'autre mesure, c'est un cercle restauratif entre en l'occurrence des personnes condamnées et des victimes, victimes donc d'infractions similaires.
C'est une pratique qui vient du Canada essentiellement, qui a commencé à travailler sur cette question depuis plusieurs années. En France, on en parle depuis une petite dizaine d'années. Vous avez parlé de la loi de 2014. Moi, j'en ai entendu parler pour la première fois 2012-13, effectivement. Une collègue qui avait été en mission au Canada, qui avait rapporté cette pratique et qui nous en a parlé. Donc c'est quelque chose de relativement récent en France. Voilà, en gros, une dizaine d'années, vous l'avez compris. Donc ça se développe. C'est pas encore, on le fait pas partout. Sur Angers, on n'a pas encore grand-chose, mais on y pense. Après, c'est à nous, les professionnels, avec les acteurs, après, avec les parties, de s'en saisir et d'essayer de le mettre en place. Vous avez entendu à la fin du film, il y a une dame qui dit, voilà, on va se moquer de vous, on va vous critiquer. C'est vrai que c'est pas, et elle dit, je crois à un moment aussi, c'est pas dans l'esprit français, je sais plus quelle est sa formule exactement, mais quelque chose comme ça, voilà. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait dans notre culture, c'est-à-dire de rapprocher les parties, C'est un peu aussi comme l'idée de la médiation, de la conciliation, du règlement amiable. Ça fait des années ça qu'on en parle en France, et ça a du mal à prendre parce que c'est pas dans notre esprit, c'est pas dans notre culture. Voilà. Notre culture aujourd'hui, c'est plutôt j'ai des droits, j'ai un droit, je vais le faire valoir, j'irai jusqu'au bout et je lâche rien. Voilà, c'est un peu ça. Qui est séduisant comme ça dans un discours, mais qui, dans la vraie vie, dans la réalité, dans la pratique d'un procès, d'un tribunal, c'est pas forcément très vivable et très positif. Voilà. Donc, voilà. Elle a raison, cette dame, quand elle dit ça. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse évoluer nos mentalités, chacun d'entre nous, le regard qu'on porte sur la discussion, sur l'échange, sur la concession, puisque la médiation, c'est une forme de concession. Et la justice restaurative, c'est un peu ça aussi. C'est accepter, à un moment donné, de voir l'autre pas uniquement comme un agresseur. Et puis l'agresseur, il voit aussi la victime comme un être humain. Comme voilà. C'est là où il faut vraiment un peu changer nos manières de voir, de penser les choses. Donc ça se fera pas comme ça. Ça demande un effort de chacun. Mais c'est quelque chose qu'on va essayer de développer et qui tend à se développer. Voilà.
Merci. Vous dites que ce n'est pas la tendance des Français de comprendre ça. Je voudrais savoir s'il y a eu des sondages pour savoir comment cette justice restaurative fait des progrès, parce que en France, on a quand même tendance à dire que la prison, c'est fait pour punir. Et c'est beaucoup trop doux, c'est dit, à un moment donné. On est quand même dans un pays où la justice de classe pousse les gens à penser qu'il faut punir les gens des quartiers. On voit surtout des gens des quartiers, là. Et je voulais savoir si on avait l'impression que, depuis 2014, cette justice restaurative était rentrée dans l'esprit des gens. D'abord, est-ce que beaucoup de nos concitoyens connaissent cette justice restaurative ?
Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'une rencontre victime-auteur, j'ai tout simplement halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, dans mon service, je prends en charge des auteurs. Je vois pas comment je peux accompagner des victimes. Donc déjà, il y a cet imaginaire-là. On ne peut pas faire. Ce que disait aussi une des actrices, c'est que la justice restaurative, c'est un sport de combat. Pourquoi ? Parce qu'on le voit aussi dans le film, c'est un processus qui est très long. Un processus pour recruter des victimes, un processus pour recruter des auteurs, pour former les CPIP, pour former aussi tous ceux qui font partie de la vie de la société, en fait, et qui vont accompagner les groupes de parole. Donc c'est quelque chose qui est assez long à mettre en place et qui, par exemple, à Angers, n'est pas mis en place encore. En tout cas, ça fait partie de nos objectifs de service. Mais là encore, moi, j'ai demandé plusieurs fois à être formée, je ne l'ai pas été, mais il y a des conseillers pénitentiaires d'insertion de probation au SPIP d'Angers qui sont formés. Mais c'est encore, comme vous le disiez, Monsieur le Président, quelque chose qui demande à être mûri et travaillé.
Alors, l'Institut de justice restaurative, hein, qui accompagne justement et qui forme donc ces personnes, donc les animateurs. Donc cet institut est chargé donc de faire des bilans, on va dire. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs bilans, hein, qui ont été faits depuis lors pour effectivement répondre à un certain nombre de questions, notamment sur les attentes donc des uns et des autres, comme ça a été dit là dans le film. D'une part, sur effectivement combien de mesures sont mises en œuvre, combien réussissent, etc. Donc oui, il y a effectivement donc ces bilans là qui sont faits annuellement pour avoir un retour sur expérience, en fait.
Des sondages, donc oui, pas à ma connaissance, voilà, au niveau national, connu des Français, j'ai un peu apporté un début de réponse. Voilà, c'est encore quelque chose d'assez nouveau, donc qui est pas très connu. Vous avez raison, c'est vrai que la prison reste la peine un peu reine, effectivement, alors que c'est pas nécessairement l'idéal dans l'absolu, c'est évident. Le but d'une peine, c'est de sanctionner un acte, de montrer qu'on a franchi une ligne et que c'était pas bien et qu'il faut pas le faire. Le but d'une peine, et la prison parmi elles en est une, c'est aussi de conduire une personne à une réflexion, à un regret, à un remords, évidemment, et puis de s'améliorer, de se resocialiser, de se remettre dans la société, de vivre en respectant les règles. Voilà. La prison, c'est pas uniquement mettre à l'écart quelqu'un un temps donné. Si c'est que ça, ça sert pas à grand chose. Ça sert juste le temps qu'on la met à l'écart et c'est tout. Voilà. Donc voilà, là, il faut aussi évoluer dans notre état d'esprit, nous tous collectivement, arrêter de penser que quand quelqu'un va pas en prison, alors qu'il a fait une bêtise, c'est pas, il y a pas de sanction, il y a rien. Souvent, pour beaucoup de gens, c'est assimilé à « il n'y a rien ». Voilà. Et il ne faut pas penser comme ça. Voilà. Il faut évoluer dans cette manière de voir les choses. Mais c'est vrai que ça reste très fortement ancré dans notre imaginaire collectif qu'une sanction, la seule sanction, c'est la prison. Voilà. Le reste, ce n'est pas grand-chose. Voilà. C'est vrai.
Bonsoir. Élodie, éducatrice en prévention spécialisée sur Angers. Merci de répondre à nos questions. J'en avais une concernant la médiation. Est-ce qu'il y a des prérequis dans le cadre de ces médiations, par exemple, pour éviter les phénomènes d'emprise? Comme on peut le voir à la fin du film, ça se termine de façon plutôt positive, mais la médiation, dans certains cas, peut créer des difficultés importantes auprès de la victime et renforcer le phénomène de, je dirais, de domination ou de prédation sur la victime. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour pouvoir créer ces rencontres?
Alors oui, effectivement, il existe un certain nombre de prérequis. Alors, ça a été évoqué plus ou moins dans le film. D'abord, c'est sur la base du volontariat. Ça, c'est important. Hein, donc, il faut une volonté libre et éclairée de chacun. Ensuite, ça suppose que chaque personne est parfaitement informée donc, de ce processus, hein, des étapes de ce processus. Donc, et aussi, chaque personne est informée de ce qu'à tout moment, elle peut cesser et interrompre aussi ce processus. Les personnes sont aussi informées qu'on est dans un processus confidentiel. Vous voyez, au tout début, le condamné vient dire « mais ça va me servir à quoi ? Je vais passer bientôt, en tout cas, il n'était pas encore condamné, je vais bientôt passer en jugement, est-ce que ça va me servir à quelque chose ?» Pas du tout, hein, c'est complètement déconnecté, je dirais, de la procédure pénale et des conséquences de la peine, etc., qui sera prononcée éventuellement ultérieurement. Voilà. Donc oui, il y a des prérequis et il y a ce qui a été indiqué aussi donc dans ce film, ce phénomène de survictimisation. Donc oui, il y a effectivement des garde-fous parce que c'est important, ça a été rappelé dans le film. Il faut que tout un chacun soit sécurisé hein, dans ce processus, la victime, mais aussi l'auteur. Voilà, c'est important. Donc il y a un rapport égalitaire. Voilà. Et donc c'est vrai qu'il appartient aux personnes qui interviennent, qui accompagne les personnes. Vous avez vu que concernant la médiation, c'est extrêmement long. Finalement, ce qui est plus long, c'est tout ce qui est préparatoire. C'est tous les entretiens individuels. Et il faut bien comprendre que la finalité, c'est pas forcément la rencontre avec l'auteur. Voilà. En tout cas, c'est le processus en lui-même qui est le plus important, qui est un processus de restauration. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il appartient aux animateurs de dire à un moment donné, eh bien, on ne peut pas poursuivre. D'ailleurs, on a bien vu, il y a eu un moment donné comme un stop, une pause. Il fallait que la personne aille voir donc un ami payant, hein, voilà, pour qu'elle se reprenne, pour qu'elle soit donc accompagnée correctement, pour que le processus puisse se poursuivre. Voilà.
Au-delà de la médiation pénale dont on vient de parler, la médiation pénale, c'est quand quelqu'un a commis une infraction, qu'il y a une victime. Voilà. Il y a aussi tout le champ de la médiation civile, donc j'élargis un tout petit peu. Puisque une grande partie de la justice, c'est aussi de la justice civile, où il y a aussi des litiges entre des particuliers sans une dimension pénale, voilà, sans infraction. Voilà. Dans ce domaine, on en fait aussi de la médiation depuis plusieurs années. J'en ordonne moi-même assez souvent dans des litiges que j'ai à trancher au civil. Il y a bien sûr là aussi des conditions. On regarde d'abord que le domaine s'y prête. Voilà. Typiquement, la médiation, c'est intéressant dans les domaines dans lesquels les parties sont amenées à continuer à se voir, à travailler, à vivre ensemble. Le voisinage, la famille, une relation de travail. Voilà. Donc là, quand les parties doivent continuer à se voir, ben, le mieux, c'est quand même d'essayer de trouver une solution qui va satisfaire à peu près tout le monde plutôt que trancher dans le vif qui peut parfois laisser des traces auprès de tout le monde. Voilà. On vérifie aussi, bien sûr, ce que vous avez dit est très juste, que qu'il n'y ait pas un déséquilibre trop important entre les parties. Si effectivement on peut sentir, pour X raisons, on ne va pas rentrer dans donner trop d'exemples, mais si effectivement il y a une partie qui est effectivement très dominante pour tout un tas de raisons, la médiation, elle risque de ne pas être très équilibrée. Ou alors il faut qu'il y ait des avocats des deux côtés pour assurer l'équilibre. Enfin, vous avez totalement raison. En tout cas, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une forme d'emprise, même en dehors du pénal, entre les parties pour d'une partie sur l'autre, parce que sinon ça peut pas marcher. Il faut aussi qu'on s'assure de l'état d'esprit, que les gens comprennent bien ce que c'est que la médiation. Comme je disais il y a quelques instants, une médiation dans quelque domaine que ce soit, ça veut dire qu'on ne tranche pas purement en droit. Ça veut dire qu'on conduit les parties d'une manière ou d'une autre à construire la solution qui va résoudre leur litige. Et donc, à abandonner un peu une partie de leurs droits, mais au profit d'autre chose. Ils vont abandonner quelque chose au profit d'un règlement plus rapide, au profit de la sérénité, au profit d'une certaine paix, et se dire, bon, voilà, j'ai lâché, il me devait 2000, j'ai lâché 500, mais enfin, j'ai au moins récupéré 1500, on n'en parle plus, c'est réglé, c'est terminé. Vous voyez un peu l'idée. On abandonne un peu, mais au profit d'autre chose. Voilà. Et il faut s'assurer que les gens soient bien dans cet état d'esprit. Si leur état d'esprit reste extrêmement vindicatif, reste celui de « je veux aller au bout, je veux mon droit, j'ai droit à ça et je l'aurai », la médiation, elle est un peu mal partie. Voilà. Donc on s'assure aussi de ça. Donc vous avez entièrement raison. Il y a un certain nombre de conditions. Et le juge, au moment, quelle que soit finalement la matière, au moment où il va ordonner une médiation, voilà, il doit s'assurer que ces conditions sont à peu près remplies. On n'en est pas toujours très sûr. Quelquefois, on se dit, bon, allez, on tente, on est un peu, on n'est pas. Puis, bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas. On reprend le processus normal. Mais en tout cas, il y a effectivement des conditions. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Merci. Dans le film, on voit deux méthodes de justice restaurative. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Il y a le face-à-face et le cercle. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de justice restaurative ou pas?
Oui, effectivement, il existe d'autres mesures, mais qui sont très, très accessoires. Des mesures, des cercles restauratifs qui peuvent concerner aussi l'environnement proche, je dirais, de la victime, par exemple, qui peut être associée. Quand les détenus aussi quittent le lieu de détention, il peut y avoir aussi un accompagnement. Donc oui, il y a d'autres dispositifs, mais qui sont plus effectivement accessoires.
Vous parliez tout à l'heure de réussite de la justice restaurative, et en fait je voulais savoir s'il y avait des critères de succès, les auteurs étaient suivis dans le temps, si les victimes étaient suivies dans le temps, comment vous jugez que c'est, le procédé a marché, quoi.
Alors, c'est une question qui est difficile parce qu'en fait, ça c'est une appréciation très personnelle, très individuelle. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas forcément de retour, si ce n'est que on pose des questions aux personnes qui ont participé à ce processus et on leur demande si finalement ce processus a répondu à leurs attentes. On voit bien dans le film en fait que les attentes sont très diverses et peuvent d'ailleurs un peu fluctuer aussi dans le temps. Donc la réponse n'est pas unique, on peut pas donner une réponse unique. Si peut-être qu'une de ces personnes a pu, se réconcilier avec elle-même, comme on l'a vu ici, pour envisager autrement l'avenir, ne serait-ce qu'en sortant de chez elle, c'est déjà une réussite. Voilà.
Alors, je vais essayer de vous répondre en réfléchissant simplement. Je ne l'ai pas encore vécu moi-même, j'en ai pas conduit ou j'en ai pas vu moi-même réaliser. J'aurais envie de dire, c'est réussi si chacun repart en paix, et mieux. Une des victimes dit « voilà, je vais bien maintenant ». Je crois que ça peut être ça l'objectif, c'est vivre, dépasser tout ça. Du côté de la victime, se dire je ne suis pas qu'une victime dans la vie, ne pas se réduire à son statut de victime à un moment donné, ce qui est un peu notre tendance aussi de notre époque. Voilà, il faut faire attention, on est victime à un moment donné, il faut qu'on soit restauré dans notre statut, on doit avoir une réparation. Après, on ne se réduit pas toute sa vie à être une victime. Voilà, on n'est pas que ça. Voilà. On doit passer à autre chose. C'est une étape difficile, douloureuse, mais après, la vie continue, il y a d'autres choses qui se construisent, on avance, on fait autre chose. Voilà. Donc, pour le côté victime, c'est ça. Le côté auteur, ce serait de la compréhension. J'ai compris ce que j'ai fait, que ce que j'ai fait n'est pas bien, j'ai compris que j'ai fait du mal, et évidemment, s'amender, ne pas recommencer, éviter la récidive. Je crois que ce serait ça le critère de la réussite. Vous l'avez compris, c'est ce qui vient d'être dit, hein, c'est que ça ne se fait pas en deux minutes, ça prend du temps et on va le voir dans le temps. Voilà, on ne peut pas dire que ça a marché au bout d'une journée. Voilà, c'est certain. C'est certain. Donc c'est un processus qui est difficile, long, coûteux d'une certaine manière. Voilà. Mais je pense que c'est assez intéressant parce que ça peut favoriser une meilleure vie en commun, une meilleure vie en communauté. Le vivre ensemble est nécessairement amélioré par une justice comme celle-là qui réussirait. Voilà. Il me semble.
Alors, on parlait effectivement tout à l'heure de justice rétributive, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on poursuit une personne, on le condamne, donc c'est notre justice. Mais dans le cours de cette procédure, finalement, on s'aperçoit que, finalement, on a un auteur, une victime, qui ne se regarde pas. Voilà, elles sont un peu côte à côte, mais elles ne se regardent pas. C'est-à-dire que ça leur échappe, ça a été dit à un moment donné dans le film. C'est-à-dire que je crois que c'est une victime qui vient dire « j'ai l'impression que j'étais transparente, on ne m'a pas écoutée ». C'est ça, c'est souvent ce sentiment-là qui reste, enfin, souvent, la plupart du temps, pour les victimes. C'est-à-dire que j'avais des choses à dire et puis j'aurais voulu lui parler, j'aurais voulu qu'il me parle, qui répond à mes interrogations, à mes questions. C'est-à-dire que c'est ça aussi la justice restaurative, c'est leur permettre d'avoir en fait un espace d'échange, un espace de dialogue qui soit un espace complètement indépendant du processus pénal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu ni pour les uns ni pour les autres. C'est ça l'objectif de la justice restaurative. En fait, quand on regarde le code pénal, hein, la peine, elle a plusieurs fonctions. Et elle a aussi cette fonction, hein, pour finalement la personne qui est condamnée. Année, hein. C'est-à-dire éventuellement la resocialisation, la réinsertion, c'est ça. Et finalement, la justice restaurative, elle n'a fait que développer cet aspect-là de la peine. Et c'est-à-dire qu'il faut effectivement envisager, dans sa globalité, la personne, hein, les personnes en l'occurrence. C'est ça qui importe, parce qu'on comprend bien que lors d'un procès, c'est assez déshumanisé, finalement, hein, à plusieurs points de vue, du point de vue de l'auteur, du point de vue de la victime. Et là, c'est les recentrer sur elles-mêmes. Et ce schéma qu'on a vu, ce cercle, ça veut tout dire, en fait. C'est intéressant parce qu'elles sont face à face. Elles ne peuvent pas faire autrement que d'être face à face, que de se regarder dans ce cercle avec ce bâton de la parole qui circule aussi. Et tout le monde est sur un pied d'égalité.
Oui, c'est bonjour, bonsoir. Je voulais savoir si le niveau de gravité des délits qui sont commis, par exemple des meurtres, des assassinats, sont des obstacles à la pratique de cette justice restaurative.
Il n'y a pas, en fait, en termes d'éligibilité, les crimes les plus graves sont également éligibles. Moi, je me souviens que j'avais parlé donc avec un intervenant au sein de l'Institut, hein, qui m'expliquait que lors des procès, hein, qui sont déroulés, les procès donc sur le terrorisme après 2015, il y a eu effectivement une volonté comme ça d'envisager des mesures. Donc ça veut dire qu'effectivement on se retrouve avec des personnes qui ont commis des crimes particulièrement graves. Voilà. Donc il n'y a pas effectivement de critères liés à la gravité des infractions. Non. Après, on l'a dit tout à l'heure, c'est la question des prérequis. C'est à quel moment on met le curseur, évidemment, pour éviter une survictimisation.
Donc actuellement, il y a une forte incarcération. On incarcère de plus en plus de personnes. Donc je voulais savoir s'il y a une corrélation entre la lenteur avec laquelle la justice restaurative se met en place et le fait qu'on incarcère de plus en plus. Parce qu'on voit bien, là, ça prend beaucoup de temps. Ce que je trouve magnifique, c'est qu'on refait société, en fait. Alors là, bon, peut-être que le film est idyllique, hein, les acteurs jouent merveilleusement bien, c'est très positif. Je reconnais qu'on aurait tous envie de s'engager pour ça, pour refaire société. Mais on assiste actuellement à une incarcération énorme, on a de plus en plus de détenus. Comment pourrait-on mettre en place ceci? Et est-ce que justement ça explique le fait que sur Angers, on n'ait pas encore pu commencer? Alors bon, c'est vrai que nous avons une maison d'arrêt, ce n'est pas une prison. Je ne sais pas si ça se pratique sur une maison d'arrêt ou c'est sur un centre pénitentiaire.
Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Et puis le problème de la maison d'arrêt, c'est que ce sont des courtes peines. Donc, pour organiser ce genre de rencontre détenus-victimes, pour justement organiser tous les entretiens préalables, bien souvent, l'auteur a terminé sa peine. Donc, en maison d'arrêt, ça me paraît compliqué. Après, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est en cours de construction. Mais ce n'est pas parce que la justice restaurative n'est pas mise en place, à Angers notamment, que ça explique le taux d'incarcération. Il est évidemment trop élevé. Nous avons un directeur de l'administration pénitentiaire qui réfléchit à ça, pour qui les exemples européens prennent sens. Et en tout cas, on réfléchit à éviter l'effet désocialisant de l'incarcération et à éviter les incarcérations. Et mon service travaille à ça, justement. Et sa mission première est la prévention de la récidive. C'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, les conseillers pénitentiaires travaillent à ça, travaillent avec les auteurs, sont parfois en contact avec les victimes, avec les associations d'aide aux victimes. Et on essaie de faire réfléchir aussi les auteurs tout délit de violence, d'agression sexuelle, etc. On essaie de les faire mûrir, de les aider à sortir de la délinquance. Et en tout cas, il y a des gens qui sont engagés pour faire baisser le taux d'incarcération.
Est-ce que vous avez des informations sur justement l'impact d'une telle mesure de justice restaurative sur la récidive, sur les taux de récidive des personnes qui ont participé à ce genre de mesure ?
Alors en France, pas ma connaissance, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un dispositif finalement qui est récent, avec des programmes qui ont commencé à se mettre en place à partir de 2018. Voilà, donc je pense qu'il faut encore attendre un petit peu. Et peut-être pour rebondir un peu sur votre question, c'est aussi une question de coût, hein, parce que c'est un dispositif qui requiert beaucoup de moyens financiers, de moyens humains, voilà, et beaucoup aussi de volonté. Hein, voilà, donc c'est beaucoup d'énergie à déployer pour que tout ce dispositif se mette en place. Hein, voilà, pour répondre à peu. Oui.
Alors. Certes, il n'y a pas la justice restaurative, mais il y a aussi... on connaît les vertus du groupe, en fait. Et il y a ce qu'on appelle les programmes de prévention de la récidive. Moi, j'ai pu en animer. Et il y a vraiment une interaction entre chacun, des reflets qui sont faits, une réflexion qui est apportée. Et puis, en plus, notre rôle est différent. Enfin, on n'a pas la même casquette que quand on est dans un bureau. Il y a plusieurs groupes qui sont mis en place au SPIP de Maine-et-Loire. Donc ce programme de prévention de la récidive à destination des auteurs de violences conjugales. Et puis il y a aussi des groupes qui sont destinés à apprendre à gérer l'impulsivité, à gérer les émotions, etc. Donc le groupe a ses vertus.
Bonsoir. J'avais une question pour savoir si ce genre de groupe de parole pouvait être envisagé aussi dans le cadre d'échanges avec des mineurs ou si c'était exclusivement réservé aux cas majeurs. Et dans le cadre du coup des échanges qui ont eu lieu au niveau des échanges avec les scolaires, est-ce que c'est des choses notamment qui peuvent être dupliquées dans les établissements, par exemple dans le cas de harcèlement scolaire et pour faire prendre en conscience justement à la fois des agresseurs et agressés. Enfin, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais voilà.
Alors, nous, on a rencontré une association qui s'appelle Alternative, dont la présidente est là, et qui, justement, travaille dans un esprit de justice restaurative sur le harcèlement scolaire. En tout cas, j'espère que c'est une association qui va prendre son essor et qui va pouvoir travailler avec les plus jeunes là-dessus, justement.
Merci, bonsoir. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je me demandais quelle était la différence entre les entre Yvette et Judith, par exemple, pour les moyens humains. Est-ce que n'importe quel professionnel, par exemple un psychologue, peut aussi être animateur dans ce type de dispositif, ou c'est uniquement, par exemple, des juristes ou des professionnels qui sont ces pipes?
Alors les personnes peuvent venir de tous horizons, hein, finalement, mais il y a donc la nécessité de suivre une formation spécifique. Voilà. Même en tant que médiateur, on ne peut pas animer donc ces mesures-là, hein, clairement. Donc vraiment, il faut s'astreindre à une formation bien particulière pour devenir animateur dans ces... Voilà.
Et pour être animateur, en plus, on peut être calé. C'est-à-dire qu'on est, c'est pas parce qu'on a fait la formation qu'on peut animer de la justice restaurative. Il y a deux niveaux. Le niveau 1 qui est plus de l'information, et puis le niveau 2 c'est pour animer. Et il y a une sorte d'examen à la fin. Enfin, en tout cas, j'ai pas fait la formation, mais j'aimerais bien. Mais en tout cas, on ne devient pas comme ça animateur de justice restaurative.
Moi, je vais me permettre une question. Est-ce qu'à un moment donné du processus, le personnel pénitentiaire est associé? Et si oui, comment?
Le personnel pénitentiaire...
C'est-à-dire la direction ou les surveillants? Enfin, comment ils sont... est-ce qu'ils sont associés ou pas du tout?
Alors,
comment ils sont informés? Enfin, voilà, c'est...
On ne le voit pas dans le film, en fait.
Mais
évidemment qu'ils sont associés, parce que ne serait-ce que pour ouvrir les portes, aller chercher les détenus, etc., il faut qu'ils soient associés. Et puis, de toute façon, c'est aussi dans les engagements de service. Enfin, l'établissement pénitentiaire est forcément associé à ce projet, qui est un projet qui demande un investissement de chacun des agents de l'administration pénitentiaire. Et puis, il y a les CEPIP et le SPIP qui, évidemment, est associé.
Et ce sont eux qui assurent la formation aussi, les CEPIP, le SPIP ou...
Alors, dans le film, on voit que la CEPIP devient formatrice.
Formatrice, ouais. C'est pas forcément le cas.
Pas, pour
d'accord.
Donc, j'avais une question complémentaire de quelqu'un qui n'ose pas la poser. C'était tout à fait... Pour poser la question par rapport à la corrélation entre la construction de plus en plus de prisons et de ne pas mettre les moyens pour pouvoir déployer de plus en plus d'initiatives de ce type. Est-ce que, du coup, il n'y a pas une décorrélation entre les moyens mis en place par le gouvernement financier versus les moyens mis en œuvre pour construire plus d'établissements?
J'ai un devoir de réserve, je vais laisser Monsieur le Président.
Ah oui, du coup, je suis mal à l'aise. Non, non, il y a, bien sûr, on a un devoir de réserve. Non, mais sans faire de critique. Déjà, je ne pense pas que ce soit en opposition, c'est-à-dire que sans aucun jugement sur la politique carcérale et la politique juridictionnelle, voilà, sans jugement de valeur là-dessus, on peut mener une politique de justice restaurative à l'intérieur de la prison. Voilà, il y a pas de, c'est pas en opposition. Après, si on veut moins de prison, pour rejoindre, enfin, il y a plusieurs questions en fait qui sont en lien. Voilà, je crois que vous avez compris. Il faut effectivement des moyens sur autre chose, sur les fameux CEPIP, les conseillers pénitentiaires nationaux de probation, qui vont accompagner des personnes condamnées à l'extérieur, les suivre. Pendant un certain temps, et ça peut éviter la prison, évidemment. Voilà, donc il faut des moyens là-dessus. Est-ce qu'on les met? Voilà, là, je m'arrête. C'est après à vous, en tant que citoyen, électeur, de voir cela. Je vais pas plus loin. Mais c'est sûr que ça requiert d'autres moyens. Et comme, juste pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, comme dans l'esprit de beaucoup de Français, une politique pénale... Ça doit être sévère, une politique pénale sévère, c'est de la prison. Voilà, peut-être que nos gouvernants ont du mal à mettre de l'argent sur autre chose parce que la prison reste, voilà. Et là, c'est là où je renvoie à la réflexion du début sur l'état d'esprit, la manière dont on voit la peine, dont on voit une politique pénale. Voilà. Il faut revoir. Tout ça, si on veut tout mettre en perspective et comprendre, il faut regarder ce qui s'est passé depuis le début des années 80. On a beaucoup parlé de Robert Badinter ces derniers temps. Regardez voilà, ce qui s'est passé quand Robert Badinter a mis un certain nombre de choses qui a pu être dit de lui, de sa politique. Regardez la suite. Voilà. Quand on regarde toute l'histoire de la politique pénale en France depuis, en gros, le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on comprend un certain nombre de choses et on met les choses en perspective. Et on peut aussi en déduire ce qui serait peut-être bien de faire ou d'arrêter de faire. Voilà. J'essaie de très modérer, voilà, mais... Voilà.
Merci,
la prison est utile à un moment donné. Hein, voilà, la prison est utile. Mais effectivement, oui. Ça ne peut pas être la seule réponse à la délinquance. Oui. C'est évident.
Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que vous avez abordé le problème des moyens. Maintenant, est-ce que le ministère de justice il a assez de moyens ou est-ce que je ne sais pas si son budget est en augmentation, mais je ne pense pas qu'il soit en augmentation. Et c'est vrai que faire ce genre de travail, ça me semble un petit peu délicat dans la mesure où il y a une surpopulation carcérale qui est très très importante. On le voit à la maison d'arrêt d'Angers quand on voit les statistiques. Vous avez cité l'Amérique du Nord. Et est-ce qu'il procède de la même façon que ce qu'on vient de voir dans le film ? Parce que là, je les ai vus dans le film, ils s'embrassent à la fin et ils se font des accolades. Et des fois, c'est très, très dur quand on a été éborgné, quand on a reçu un coup de matraque sur le crâne et qu'on a un traumatisme crânien. Je ne pense pas que c'est facile de venir serrer la main. Est-ce que ça se passe comme ça en Amérique du Nord, comme vous l'avez dit en introduction ? Merci.
Ça, peut-être sur cet aspect-là, je vous laisserai ajouter un mot parce que je sais que ça vient d'Amérique du Nord, qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place au Canada. Je n'ai pas été voir concrètement comment ça se passait. Et comme l'a dit très justement quelqu'un, la fin est peut-être un peu idyllique. Bien sûr, c'est pour montrer une image. Je ne sais pas si ça se passe systématiquement comme ça. Et bon, c'est pas forcément pour revenir sur le critère de réussite que monsieur évoquait. Je ne sais pas si le critère de réussite, c'est que tout le monde se saute dans les bras et s'embrasse. Bon, c'est peut-être pas forcément. Voilà. Juste un mot sur le budget que vous évoquez. Oui, le budget de la justice ces derniers temps augmente, est amélioré. Il y avait dans un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire correctement, des bâtiments, un certain nombre de juges, de greffiers, dans le domaine pénitentiaire également, on n'avait pas forcément suffisamment de personnel. Donc les choses s'améliorent un petit peu, même si le contexte que chacun connaît maintenant des finances publiques est quand même compliqué. Hein, je ne sais pas si on va pouvoir continuer comme ça encore quelques années à augmenter un certain nombre de budgets. Mais bon, en tout cas, depuis quelques temps, c'est vrai que ça s'améliore un peu. Attention. La justice, ce n'est pas que le pénal. Hein. Là, on est le film, notre discussion, c'est essentiellement le pénal. J'ai quand même fait attention, vous avez remarqué tout à l'heure, quand j'ai parlé de médiation, j'ai bifurqué un peu sur le civil. Il faut bien avoir en tête que vous tous ici, je pense que le pénal, vous ne le voyez qu'à la télévision, au maximum, et éventuellement... une contravention pour un excès de vitesse ou un stationnement, voilà, c'est tout. La plupart d'entre nous ici, on n'a pas affaire, enfin, je parle en dehors des professionnels, on n'a pas affaire et vous n'avez pas affaire à la justice pénale. Par contre, beaucoup d'entre vous ici ont sans doute eu affaire à la justice pour des aspects civils. Mamie qui est sous tutelle parce qu'elle perd la tête, on divorce, on se sépare, on ne s'entend plus, faut résoudre la garde des enfants, on a fait construire une maison, le maçon a construit le mur de travers, et ben on va devant le tribunal, etc. Ça, c'est vraiment la justice du quotidien, c'est ça, ce sont les trois quarts des dossiers qu'on a à traiter dans la justice. Et les moyens que vous évoquez, qui réellement arrivent, un peu en ce moment, un peu plus qu'avant, sont quand même aussi beaucoup mis là-dessus, parce que ça, c'est vraiment la justice du quotidien, c'est la justice de beaucoup de Français. Et nous tous ici, on a plus de risques d'être obligés un jour d'aller devant un tribunal pour une affaire comme ça, du civil, que pour le pénal, heureusement. Voilà. Donc les moyens, il faut bien avoir en tête qu'ils ne viennent pas que sur le pénal. Ils viennent aussi beaucoup sur le civil pour qu'on aille plus vite en matière familiale, plus vite en matière de droit de la construction ou un droit des contrats ou pour les tutelles, etc. Il faut toujours bien avoir ça en tête. Malheureusement, les médias, la presse, enfin, ce qu'on voit dans le quotidien, on a tendance à penser que la justice, ça se résume au pénal. Mais ce n'est pas le cas.
La justice ne se réduit pas au pénal, mais pour la moyenne des Français, quand même, j'ai parlé de justice de classe tout à l'heure. Pour beaucoup de Français, quand même, la justice, c'est voir un petit peu les condamnations des gens modestes. Hein, c'est l'histoire de La Fontaine plus vous serez puissant. Plus vous risquez d'être jugé noir ou blanc, la justice pour les Français en général, c'est plutôt cette histoire de condamnation plus dure pour des gens des quartiers populaires que pour certains de nos ministres, par exemple, qui sont toujours en activité alors qu'il y a des procès en cours. Enfin, pour moi, c'est ça la justice. C'est surtout là-dessus que j'ai le regard posé.
Alors, je comprends très bien ce que vous dites. Je m'érige un tout petit peu en faux quand même. J'espère que voilà, la justice qu'on rend aujourd'hui est quand même un peu moins une justice de classe qu'il y a 30 ou 40 ans, il me semble. Je le pense. Voilà. Je vous permets tout à fait de penser le contraire. Voilà. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, on poursuit aussi. Alors, c'est aussi à l'instigation d'un certain nombre de gens qui ont porté plainte, parce que la justice, elle ne peut pas se saisir elle-même. Hein. Voilà. Il faut aussi que des gens lui amènent une affaire, le cas échéant. Mais on poursuit quand même aussi. Et on condamne, quand on peut, quand on a les éléments, bien sûr, sévèrement aussi des gens puissants, des ministres, des chefs d'entreprise, etc., qui font des bêtises pour tout un tas de raisons, dans tout un tas de domaines, sans doute plus que... Voilà, il faut revoir un peu, là aussi, ben, revoyons des vieux films, revoyons l'histoire, et je pense quand même qu'il y a des époques où c'était un peu plus facile, quand on avait un certain statut social, d'échapper à une forme de justice. C'est voilà, moins facile aujourd'hui quand même, je pense. Maintenant, sans doute que c'est pas idéal. Évidemment qu'il y a des gens qui ont les moyens d'échapper à un certain nombre de choses par tout un tas de biais. Mais bon, on fait en sorte quand même de poursuivre. Après, il ne faut pas non plus, à l'inverse, que la justice soit plus sévère avec quelqu'un qui est puissant, etc. Plus sévère, plus dur dans un certain sens, c'est-à-dire le sens notamment médiatique. La poursuite des médias peut parfois être assez terrible pour des gens qui, après, finalement, s'avèrent innocents pour tout un tas de raisons. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, à ne pas tomber d'un excès à l'autre. Mais bon, j'entends très bien cette critique et il faut que nous soyons vigilants, nous, juges, voilà, à être toujours équitables, équilibrés et à ne pas être plus sévères avec certains ou moins avec d'autres, voilà, effectivement.
Oui, je voulais revenir. Je ne sais pas qui posait la question concernant l'Amérique du Nord. Moi, j'ai été formée à la justice restaurative au Québec par Equi Justice, qui travaille aussi avec l'Institut français de justice restaurative, donc un peu l'homologue français. Et en termes d'approche, alors moi, je ne l'ai pratiqué qu'au Québec et pas en France, mais ce que je vois dans le film, c'est ça, en fait. J'ai même retrouvé des phrases un peu clés et un peu des phrases ou des vraiment l'approche c'est celle-là, enfin c'est celle que j'ai retrouvée moi dans le film après ce que j'ai pu expérimenter au Québec.
On vous propose une dernière question, puis après on va vous libérer. Je vous en prie, monsieur.
Merci. Bonsoir. Alors, je dois admettre que je suis un professionnel du droit et avec beaucoup d'humilité, j'ignorais l'existence de ce processus. Le film ne laisse pas entrevoir la façon dont les victimes, mais également les personnes qui sont incarcérées, sont informées sur l'existence même de ce processus. Donc, à quel stade l'information existe-t-elle? Est-ce qu'elle est systématique? Et de la même façon, comment pouvons-nous nous, professionnels du droit, être plus sensibilisés, mieux informés, de façon à pouvoir proposer, dans le cadre de l'exercice quotidien de nos professions, ce processus qui est, à mon sens, infiniment plus efficace que des réparations financières, qui ne restent malgré tout qu'une partie minime de ce que les victimes peuvent avoir besoin pour aller mieux ensuite.
Alors, du point de vue des victimes, il faut savoir qu'il est prévu que les victimes soient informées donc de l'existence de ces mesures, en fait, dès qu'elles déposent plainte. Bon, en réalité, on leur remet un document assez long, on les informe de leurs droits, voilà. Et donc, elles sont censées être informées, mais clairement, il faudrait vraiment mettre l'accent sur l'information, non seulement de tout un chacun, mais également des professionnels, parce que, comme vous le dites à juste titre, donc c'est un dispositif qui est très méconnu, hein. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et même par les professionnels du droit. Hein. Non, pas sur Angers.
Je vous propose d'arrêter là pour ce soir. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous, Monsieur le Président, Maître également, Madame Roger. Voilà, demain, on refait une séance. Je crois que c'est avec des élèves de première voilà, qui vont clôturer ce festival du film judiciaire. On vous souhaite un bon retour et au plaisir de vous recroiser au cinéma Les 400 coups. Merci beaucoup.